France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Denao Mendestu. C'est une très très belle découverte de lire votre nouveau roman. Et au fur et à mesure de la lecture, on s'aperçoit qu'en fait, on est moins intéressé par le mystère qui entoure le fantôme de Samuel qu'à cette reconstruction pour Mamouche, le narrateur, de cette identité fragmentée.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Chronique d'un retour au pays presque natal aujourd'hui dans votre book club. Après avoir refait sa vie en France, comme on dit, Mamouche, le personnage principal du nouveau roman de Dinao Mengistu, s'en retourne à Washington dans la communauté éthiopienne qu'il a vu grandir. À peine a-t-il foulé le sol américain qu'il apprend la mort de Samuel, figure paternelle et énigmatique. Le romancier est président de l'organisation Pen America et de passage en France et il est notre invité aujourd'hui. Ensuite, comme chaque semaine, on parlera littérature jeunesse et poésie. Aujourd'hui, en voilà une bonne idée, parcourir, lire et pourquoi pas apprendre des poèmes avec les enfants et les adolescents. C'est la suggestion de Raphaël Bott. Enfin, un grand merci pour toutes les vidéos que vous nous avez envoyées en ce jour du 10 mars. Opération 10 mars, je lis, pour encourager à la lecture, soutenue par le CNL. Vous pouvez continuer à vous filmer en train de lire un extrait. On postera ça sur le compte Insta de l'émission. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Dinao Mengistu.
Bonjour.
C'est bien que vous soyez notre invité en ce jour du 10 mars, je lis, parce que vous présidez, en plus de votre œuvre romanesque, l'organisation Pen America et vous dites vouloir à sa tête promouvoir la joie de littérature. On va en parler avec vous dans un instant. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir.
Thank you very much. It's a pleasure to be here.
Merci, c'est un grand plaisir d'être là.
Et puisqu'on entend Eve Dare, elle traduira vos propos vers le français. Votre roman Quelqu'un comme nous paraît dans la traduction française de Paul Mathieu pour les éditions Albin Michel. Ici, on commence toujours par faire ce qu'on appelle un questionnaire lecture pour faire connaissance avec nos invités en tant que ce sont des lecteurs et des lectrices. Alors, on va parler de votre propre rapport à la lecture. Est-ce que vous voulez d'abord en parler du point de vue de votre présidence de Pen America? Ou est-ce que vous voulez en parler en remontant à votre enfance, Dinao Mengistu, et à peut-être le milieu dans lequel vous avez grandi et à la place qui tenait ou n'y tenait pas les livres?
Maybe you can start with the childhood and
peut-être qu'on peut commencer par l'enfance et le rôle qu'a joué la littérature dans ma vie quand j'étais adolescent. Comment est-ce qu'on trouve sa place dans le monde? C'est ça la question. Et pendant longtemps, j'avais peine à savoir où je me situais, où est-ce que j'existais dans ce monde, sauf dans la littérature. La littérature est donc devenue l'espace dans lequel j'arrivais à me retrouver, à réfléchir sur moi-même. Ça m'aidait à comprendre le reste du monde et même ma propre famille. J'avais des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre, je pense, et je n'arrivais pas à résoudre ces énigmes qui tournaient dans ma tête. Mais dans les romans, il y a souvent des personnages aussi perdus et désorientés que vous. Des termes qui nous permettent d'exprimer des émotions qu'on ne savait pas exprimer.
Mais encore faut-il savoir qu'il existe dans des romans des personnages possiblement aussi confus que soi-même et que ça peut être une piste pour, on va dire, faire avec sa propre confusion. Comment est-ce que vous en aviez l'intuition, Dinao Mengistu?
Il
y a cette idée selon laquelle, en lisant, on se reflète, on se projette dans le monde et on aboutit à une sorte de cartographie façonnée par les mots qu'on rencontre. Et en l'absence de toute réflexion, c'est difficile de savoir comment est-ce qu'on peut vivre avec les différentes versions de soi que l'on peut imaginer. J'ai grandi dans cette famille immigrée éthiopienne et il n'y avait pas un gros corpus de livres chez nous qui me permettaient d'asseoir cette réflexion. Et donc j'avais du mal à envisager les possibilités, le champ des possibles.
Et alors, ça arrive quand? Par quel livre? Est-ce que si ça n'arrive pas forcément depuis chez vous, dans cette famille, est-ce que ça arrive par la bibliothèque? Je pense à Robin Koslowitz qui était là il y a pas très longtemps à votre micro et qui, dans un texte, remercie tous les bibliothèques, en l'occurrence noires, qu'elle a rencontrées, elle, sur son chemin de petite fille noire aux États-Unis et qui ont compté énormément dans la femme poétesse et chercheuse qu'elle est devenue. C'est passé par quoi pour vous?
In a very similar way, it actually began with.
Un peu de la même manière.
I mean, there's lots of writers who I loved. I loved Hemingway.
Il y a beaucoup d'écrivains que j'adore, comme Hemingway, Salinger, Kerouac. Mais ce n'est pas avant d'avoir rencontré Wellison.
There was a sense of kind of profound confusion.
Où je sentais une confusion vraiment profonde.
And then later on it became
j'ai trouvé un lien avec ça. Plus tard, James Baldwin.
Certainly Morrison. But even inside of that sort of remarkable body of African-American literature, I think
toute
there
cette
was
littérature afro-américaine, ça dressait un parallèle avec ce que je vivais. Et puis il y avait aussi les écrivains européens traduits.
And to some degree that
un livre en particulier m'a parlé. Et c'est cette absence qui m'a permis d'écrire. Parce qu'il y avait là un espace qui n'était pas encore rempli. Et quand j'ai commencé à écrire, j'avais peur de créer des personnages dotés de mon identité. Quelqu'un qui est mon nom, mon expérience, l'expérience de ma famille, parce que je ne pensais pas qu'ils auraient sa place dans la littérature, qui était un lieu sacré dans lequel je ne savais pas entrer.
Je dis que c'est finalement joyeux, intéressant que vous soyez ici à notre micro en France alors qu'il y a une opération nationale qui s'appelle Le 10 mars je lis, portée par le Centre National du Livre et qui veut promouvoir au moins un quart d'heure de lecture pour tout un chacun en France. Ce qui est évidemment une opération vertueuse qu'on encourage nous ici. Puis j'ai l'impression que tous les jours nous répétons à ce micro, lisez, lisez, lisez. Et en même temps, à vous écouter, Dina Mengestu, à vous lire aussi, c'est-à-dire à lire un roman du trouble, de l'incertitude, du vacillement. C'est difficile de faire, comment dire, cohabiter des grands discours, des grandes entreprises comme Pan America ou le CNL, c'est-à-dire des discours très collectifs, très encourageants, avec la si grande spécificité, presque, on va dire, l'opacité que c'est pour tout un chacun de faire son propre chemin solitaire, je veux dire, irreproductible, dans la littérature, dans les livres. Au final, à chaque fois que quelqu'un nous dit que ça a été puissant, c'est parce qu'il l'a fait dans son coin, tout seul, en cherchant. Vous voyez ce que je veux dire? La tension entre les grands discours encourageants et la réalité de la solitude que c'est, de toute façon, à chaque fois.
Non, I agree. It can seem almost at odds. The sort of grand arguments and position and value.
Tous ces grands arguments, ces prises de position, ces valeurs. Et de l'autre côté, l'expérience très intime de la lecture.
I also think
mais en vieillissant, je me suis aperçu que cette expérience, pouvoir lire, réfléchir au monde de manière complexe, accepter de vivre dans cette incertitude, cette anxiété de personnages qui nous ressemblent mais qui sont aussi différents, tout ça, ça fait le genre de démocratie, ça rend possible le genre de démocratie dans lequel on vit.
Pluralistic democracy.
Et à l'heure actuelle, on entrevoit la possibilité d'une démocratie pluraliste, diverse, radicalement différente.
In part because we don't have a literature.
Mais ce rêve semble aussi s'éloigner parce qu'on ne dispose pas de cette littérature, finalement. C'est comme si c'était quelque chose qu'on faisait en privé. La manière dont on lit, comment on lit, ça va bien sûr avoir une forte influence sur la manière dont on structure nos sociétés, les politiques d'un pays. Et en Amérique, l'espace réservé à la littérature se rétrécit comme peau de chagrin, et donc le champ politique aussi se rétrécit de manière dramatique.
Il se trouve que vous venez ici aussi parler à ce micro un jour où les universitaires et le milieu de la recherche aujourd'hui en France se mobilisent contre un manque criant de moyens et une baisse d'année en année des moyens qu'ils ont pour chercher, pour penser, pour enseigner. C'est comme si à vous écouter, Dino Mangestu, vous disiez finalement, si ces endroits de pensée, de création, de littérature, de recherche sont attaqués collectivement, alors il faut y répondre de manière un peu plus massive, de manière un peu plus démonstrative. Ce serait ça qui nous encouragerait à partir des discours peut-être plus en avant, moins intimistes.
Completely, and I think sometimes it's very easy for these for the argument for all of this work to seem like it's just to protect itself.
Parfois, on peut penser que ce travail vise à se protéger soi-même, qu'il ne se déroule que dans la petite bulle universitaire. Mais je crois aussi qu'il faut apprendre à faire passer le message, tout ce que produit cette recherche, les arts, la littérature. Eh bien, ce n'est pas réservé à une petite élite. C'est ça que les gens doivent savoir. C'est ce qui fait notre collectif, notre vivre ensemble et notre capacité à vivre dans un dialogue complexe.
Et ça, vous avez l'impression que c'est audible en ce moment aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde ? C'est facile à porter comme discours.
I think because we haven't made the argument forcefully enough.
On n'a pas assez porté ce discours, pas assez vigoureusement.
And we've been, I think we've been very almost lazy in America.
Je crois qu'on a été un peu paresseux, du moins en Amérique.
We just imagine that, you know, we'll continue to make these values known.
And quant à la manière dont on voulait faire perpétuer ces valeurs.
A defense of writ literature, a kind of a national.
En France, je sais qu'il y a l'année de la défense de la langue française. Enfin, il y a un mouvement national pour protéger, préserver la lecture, la littérature. C'est donc une démonstration, oui, plus puissante dont on avait besoin, pas seulement des particuliers, mais du gouvernement, de l'ensemble de la société civile, pour porter ces valeurs et les mettre en avant. La politique émane de la culture. Et si on n'arrive pas à défendre la culture, on va avoir des problèmes politiques.
Oui, on a tendance à prendre les choses dans l'autre sens, malheureusement. Dino Mangestu, c'est quoi Pen America?
Pen America, we are in many ways just one center of
Pen America. C'est un centre avec 160 chapitres à travers le monde.
Pen International,
sections.
Pen, as an organization began, I think, more than 100 years ago.
Pen International est né il y a plus de 100 ans. Et pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, c'était important pour protéger les écrivains, notamment ceux qui fuyaient les persécutions. Et ça fait encore partie du travail important que l'on mène. Et sur le sol américain, nous prenons la possibilité de tous les écrivains, les journalistes, de s'exprimer sans être censurés par le gouvernement et sans être censurés par notre propre communauté littéraire aussi. La censure peut prendre différentes formes. Aux États-Unis, il y a le Premier Amendement, mais il y a aussi le problème, ce qui empêche les gens de parler, ils estiment qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer.
Je vous faisais part de mes réflexions entre des grands discours publics nécessaires et peut-être la défense aussi d'une expérience obscure, intime, non disciple de la lecture, entre laquelle on essaye de naviguer ici dans le book club. Et en vous écoutant, je me dis à quel point est-ce que c'est conciliable d'avoir des actions qui sont, comme vous le dites, politiques, publiques au sens de Pen America, une action comme ça dirigée vers les autres, et la plongée en soi que nécessite l'écriture d'un roman comme quelqu'un comme nous, ça se répartit comment dans votre vie? Et est-ce que ça se tient ensemble?
Yeah, they do. They go hand in hand.
I think, oui, ça se tient ensemble.
You know, I think part of why
ça va main dans la main.
It's important, you know, for like in Pen America that we argue and try to protect, say, the right of an individual author.
Pen America, on protège les droits des écrivains individuels à produire en toute liberté, parce qu'on sait que la liberté de l'expression individuelle, la possibilité de créer quelque chose de neuf et d'original, il faut protéger les droits de tous les écrivains. C'est une idée centrale dans la littérature. On trouve son chemin vers l'universel à partir de nos expériences intimes et individuelles.
Every moment in which I think you sit in the intimacy of a book, the private experience.
Et quand on est plongé dans l'intimité d'un livre, cette expérience si particulière,
eh
bien, tout cela est rendu possible parce que on prône collectivement le droit à la création. C'est un droit très fragile qu'on peut perdre facilement. Et les conséquences de la perte de ce droit se font sentir très individuellement.
Quelle est la place que vous réservez aujourd'hui à la lecture dans votre vie quotidienne?
Not as much as I wish. I think,
pas autant que je souhaiterais.
You know, between teaching and Pen America and
j'enseigne, il y a Pen America et j'écris. Beaucoup de mon temps est pris par ces activités-là, bien sûr. Mais je sais aussi que si je ne lis pas, ça ne va pas. Il manque quelque chose. Je me sens
déséquilibrée.
Il faut avoir du temps pour la littérature. Se donner le temps pour penser, réfléchir.
Et pour
travailler de manière significative sur ce qu'on est.
Et
sans cette expérience, je me sens perdue.
On va parler de votre livre « Quelqu'un comme nous » d'Inao Majestou dans sa traduction française pour les éditions Albin Michel, juste après ce trop beau morceau choisi par Vivien de Meyer, de Saul Williams.
As if a heartbeat wasn't enough, they got us using drum machines now. Drums and machines, trying to make our drums humdrum. Trying to move our magic. Instruments be political business up inside computers. As if the heart were not enough. And as heartbeats ring percussions, fallen trees ring repercussions. Cities play upon our souls like broken drums. We drum the essence of creation from city slums. But city slums mute our drums, and our drums become humdrum. Cause city slums have never been where our drums are from. Just the place where our daughters and sons become offbeat heartbeats. Slaves to city streets. When hearts get broken and heartbeats stop, broken heartbeats become breakbeats for niggas to rhyme on top. But I won't rhyme on top, no chance. Niggas on the chain gang used to do that way back. I won't rhyme over traps. Niggas on the chain gang used to do that way back. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat, no. Not until you listen to Rock Kim on a rocky mountaintop have you heard hip-hop.
Yeah.
Extract the urban element that created it and let an open wide countryside illustrate it. Riding in a freight train in the freezing rain, listening to Coltrane, my reality went insane. And I think I saw Jesus. He was playing hopscotch with Betty Carter, who was cursing him out in a scat like gibberish for not saying Butterfingers. And my fingers run through grains of sand like seeds of time. The pains of man, the frames of mime, which built these frames, which is the structure of my urban superstructure. The trains and planes can corrupt and obstruct your planes of thoughts so that you forget how to walk through the woods, which ain't good cause you ain't never walked through the trees listening to nobody beats the biz and you ain't never heard hip hop. And you must stop that damn track from going. Please don't drop the beat. Don't drop the beat, no.
France Culture, Le Book Club, Marie Richeux.
Un roman du doute et du vacillement aujourd'hui au programme de votre book club. Ni le narrateur, ni au fond aucun des personnages n'ont véritablement d'identité fiable, solide. Au contraire, leur perception semble se mêler en permanence à l'irréel, aux souvenirs, aux rêves, aux fantasmes. Sentiments, aux conditions, peut-être créées ou augmentées par l'exil. Voici ce que dit Anna, la femme de votre personnage principal, Inao Majestou. Tu n'as même pas quitté le pays, mais j'ai eu l'impression que tu avais complètement disparu. La seule fois où nous nous sommes parlé, je n'étais pas sûre que ce soit bien toi à l'autre bout du fil, tellement tu me semblais loin. J'éprouve cette sensation au moins une fois par jour. Tu vas faire les courses, et dès que tu es partie, je me demande si tu as jamais vraiment été là. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais c'est comme si, chaque fois que tu passes la porte, tu emportais avec toi toutes les traces que la plupart des gens laissent derrière eux quand ils s'en vont quelque part. Un roman, donc, absolument, sur les traces, l'impermanence et la nécessaire et perpétuelle réinvention de soi. La traduction française de votre roman par Paul Mathieu paraît sous le titre « Quelqu'un comme nous » aux éditions Albin Michel, et on parle donc de votre roman d'Inner Majesto. Est-ce que vous voulez bien nous présenter, comme vous le pouvez, puisque je l'ai dit, son identité est en permanence discutée, recomposée, réinventée? Nous présenter Mamouche au moment où on le rencontre dans votre roman.
He's certainly lost as a figure, and I think
c'est un personnage assez perdu. Et la description qu'en fait sa femme, une figure un peu fantomatique qui erre à travers le monde comme ça, en laissant des traces à peine visibles.
C'est un peu
le produit de ses relations avec sa famille, sa culture, mais fondamentalement aussi la manière dont on construit nos identités, dont on façonne nos vies. Et qu'est-ce que ça signifie de créer son propre narratif? Et une idée dans laquelle on puisse se reconnaître, se refléter. Pendant longtemps, mon personnage n'a pas cette capacité. Il se déplace dans le monde en reflétant uniquement l'idée qu'ont les autres de lui depuis son plus jeune âge. Il a besoin, on le décrit d'ailleurs
comme un donut.
Il y a un trou au milieu de lui. Il est comme un gros donut avec ce trou au milieu de lui.
Mais
à l'intérieur de cette absence, il y a un espace pour la création. Et une invitation, comment est-ce qu'on crée les histoires qui nous donnent un sens d'exister et que la vie fait sens? Comment arrive-t-on à créer un centre de gravité pour nous-mêmes, pour notre famille?
D'ailleurs, ce vide dont vous parlez, et cette incroyable image du donut avec le vide et le trou au milieu, parfois c'est vécu comme quelque chose qui manque et qui du coup est déstabilisant et puis est rend vulnérable. Et parfois c'est, comme vous le dites, un appel à l'invention de soi, à la création, à la rêverie, à la fantasmagorie. On va y venir. Peut-être dire aussi que ce personnage-là, vous le placez entre deux liens de filiation. Père-fils, les deux sont aussi étranges puisqu'il est père d'un fils, ça c'est solide et c'est clair. Simplement, il est loin de ce tout petit garçon. Et il est fils, on ne sait pas exactement de qui. Et quand il débarque aux États-Unis, cette figure de presque père vient juste de mourir. Donc il y a vraiment aussi quelque chose qui se joue autour de la paternité, à la fois une paternité naissante et une filiation qui s'éteint avec la mort de ce personnage de Samuel. Le mettant dans cette espèce d'état de crise, qu'est-ce que vous vouliez faire, Dinao Majestou, essayer de raconter?
I think some of it is this question of certainty, right? Of where.
Il y a toute cette question de l'incertitude ou de la certitude. Où est-ce qu'on croit pouvoir se définir, se retrouver?
He's born in America.
Bon, il est né en Amérique, donc il devrait se sentir pleinement américain. C'est une forme d'identité. Et pourtant, il y a ce presque américain. Il a un père qui devrait être son père, mais qui est presque son père. Il y a toutes ces approximations autour de concepts qui devraient être certains, solides. On reçoit toutes ces idées sur la manière dont on peut définir nos vies, mais il y a des réalités beaucoup plus complexes qui font qu'on n'acquiert pas de certitude. Il faut la fabriquer, cette certitude, parfois.
You might think of me as like I'm like a father to you, but
quand Samuel dit je suis un peu comme un père pour toi,
to actually keep you close to me, that
mais je dois faire beaucoup d'efforts pour te garder près de moi. Bah, c'est vrai, il faut travailler pour se créer, trouver ses propres mots à l'intérieur de soi, oser affirmer « je suis ceci ou cela parce que je suis né là, parce que j'ai telle couleur de peau ». C'est très facile d'être imprégné par toutes ces idées. C'est beaucoup plus difficile de s'inventer à la mesure de ce qui nous convient.
Ce à quoi on peut rajouter que cet homme, on lui a toujours dit dans l'enfance qu'il valait mieux ne pas exactement dire qui il était. Que souvent, aux questions qu'on lui posait sur qui il était, il valait peut-être mieux se dissimuler, pourquoi pas mentir, ou bien pour des questions joyeuses, ou peut-être pour des questions qui ont lien au déracinement et à la mise en danger que subissent les êtres qui sont obligés ou qui choisissent de changer de lieu de vie, Mino Majestu. Quelle est la place que vous faites au mensonge dans ce livre-là, qui n'est pas exactement la place de l'invention, de la fantasmagorie, du rêve? C'est autre chose. Il y a une vraie place qui est faite au mensonge dans ce livre.
Completely. And there's an interesting kind of line, but it's important difference between the
Il y a une différence importante entre les mensonges et l'imagination, la fantasmagorie. Souvent, ils cheminent ensemble, côte à côte. Mais comprendre ce qui les distingue, c'est comprendre le pouvoir de l'imagination et combien l'imagination est essentielle à ce que nous sommes. Parce que les mensonges, souvent, c'est une sorte de protection, où ça traduit une incapacité à se regarder en toute franchise, en toute honnêteté, et pouvoir exprimer cela devant quelqu'un d'autre. Parce que c'est dangereux, ça fait peur d'être honnête, en même temps avec soi-même, avec ceux qu'on aime, ceux qui vous sont proches. Et parfois, le mensonge, ça devient une invention dont on sert pour se protéger, se dissimuler. Mais l'imagination, en revanche, c'est quelque chose qui nous permet de créer, d'inventer des versions de nous-mêmes qui ouvrent des possibilités ultérieures plutôt que d'essayer de cacher un présent abîmé.
Et puis, il y a certaines situations où les êtres sont obligés de mentir pour se protéger, notamment dans des situations d'exil. Vous ne faites pas de relation stricte de cause à effet entre l'instabilité que rencontrent ces différents personnages dans votre roman, Dino Majestu, mais quand même, ce sont des gens qui ont connu, subi, sont nés de situations d'exil. Je vais lire un extrait de votre roman. La première fois qu'il est venu ici, c'était il y a 15 ans. Tu aurais dû le voir quand il est reparti. Il avait tellement rajeuni qu'on aurait presque dit un adolescent. C'est Elsa qui l'avait amené cette fois-là. On travaillait ensemble dans le même restaurant, à l'époque où il venait d'arriver dans ce pays. Un matin, elle a tambouriné à la porte et m'a supplié d'aider son mari. Il ne dormait pratiquement plus. Il rentrait chez lui la nuit à des heures impossibles. Il lui racontait qu'il était en train de monter une compagnie de taxi pour permettre aux gens de traverser tout le continent. « Je t'en prie, Stéphanos, je t'en prie. Explique-moi ce qui tourne pas rond chez lui. » Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle le surveille en permanence et que si elle devait se rendre quelque part, il fallait que quelqu'un reste avec lui. Quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un dont il n'aurait pas peur. Oui, je me souviens. J'étais encore au lycée. Elsa m'a demandé un jour de faire le guet au pied de leur immeuble pendant qu'il dormait. Quand il m'a vu, il m'a emmené dans sa voiture pour me montrer des cartes de visite. Il m'a dit qu'il montait une compagnie de taxi pour les gens qui se trouvaient au mauvais endroit. Stéphanos en a sorti une de la poche de sa veste et me l'a tendue. Je lui ai dit que si jamais un jour je devenais riche, je l'aiderais à montrer sa boîte. Ça l'a bien fait rire. Le jour où tu deviendras riche, Stéphanos, les taxis auront disparu de la surface de terre et nous aussi. J'ai sorti de ma poche les clés de la voiture de Stéphanos et je lui ai donné. Samuel a déposé un paquet de cartes de visite sur la table, où je laisse mes clés, a-t-il dit. C'est la dernière chose qu'il a faite avant de prendre ma voiture et de rentrer chez lui. Elsa pense que c'est moi qui lui ai demandé de s'en aller, que c'est moi qui lui ai donné les clés de ma voiture. Mais je lui ai dit que c'était impossible. Je n'avais qu'un seul jeu de clés. Elle ne comprend pas comment il a pu rentrer chez lui et se faire ça à lui-même. Mais il détestait la personne qu'il était ici. S'il était mort dans cette maison, tout le monde aurait compris ce qui lui était arrivé. Il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui comme ça. Et c'est la raison pour laquelle tu es ici.
C'est vrai que pour moi, il n'est pas envisageable d'écrire sur autre chose. C'est-à-dire que je suis constituée et conditionnée depuis ma naissance par le double exil de mes parents. C'est ce double exil qui me fait naître et sans en être absolument consciente depuis que j'écris. C'est ce qui revient en permanence de manière répétitive à travers des variations diverses. Et je ne peux pas m'en empêcher. Il n'y a jamais de fin, je le pense, hein, je le pense. Et jusqu'à ma mort, j'écrirai sur l'exil, ce qui ne signifie pas que je sois mal là où je vis. C'est autre chose d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est décalé. Je continue à pratiquer le déplacement de cette manière-là, et l'exil pour moi est fécond, me fait écrire, et je ne veux pas y renoncer.
À l'époque où nous sommes arrivés dans ce pays, il n'y avait personne comme nous, m'avait-il confié quand je l'avais appelé pour lui dire que je viendrais pendant les vacances avec ma femme et mon fils. Nous pensions que nous étions particuliers. Les gens ne savaient rien de l'Éthiopie, de l'Afrique en général. Je pouvais raconter ce que je voulais et tout était vrai. C'est plus comme ça maintenant, hein, Mamouche. Aujourd'hui, dès que je tourne la tête, j'aperçois quelqu'un comme moi, mais qui n'est pas moi. Autrefois, quand tu tombais sur un Éthiopien dans la rue, tu t'arrêtais et tu te présentais. Chacun essayait de deviner qui était l'autre, d'où il était originaire. Pendant un temps, j'ai même tenu un carnet dans lequel je consignais la liste de tous ceux que je rencontrais. J'écrivais leur nom, leur numéro de téléphone, le quartier d'où ils venaient à Addis Abeba, la famille à laquelle ils appartenaient. Je me disais que si jamais il m'arrivait quelque chose, ces gens pourraient témoigner qu'ils me connaissaient, même si on s'était croisés qu'une seule fois. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui quand je vois un Éthiopien dans la rue ? Je baisse la tête. Je détourne le regard. Je me dis, nous sommes trop nombreux dans ce pays. Personne ne peut nous distinguer. Quand quelqu'un de la communauté mourait ici, c'était toute une affaire. D'autres Éthiopiens affluaient de partout pour l'enterrement, même s'ils ne connaissaient pas le défunt. Moi, quand mon heure sera venue, je mourrai comme n'importe qui. Tu comprends ? La voix de la grande autrice algérienne Leïla Sebar, dans une archive qui date d'il y a 10 ans, ici sur France Culture, au milieu de 2 extraits de votre texte « Dino Mengistu, quelqu'un comme nous ». Et on entend dans le 2e passage la peur de cet homme, Samuel, qui a peur de ne plus avoir personne qui pourrait témoigner de qui il était exactement. Et c'est quand même au cœur de votre livre, c'est-à-dire mourir, quitter cette terre et ne plus trouver, on a parlé tout à l'heure de la capacité de réflexion qu'offre, au sens miroir, qu'offre la littérature, mais ce Samuel, il a juste peur de plus trouver des humains qui pourraient le refléter dans l'entièreté de ce qu'il était, c'est-à-dire un homme arrivé d'Éthiopie vivant aux États-Unis.
Yeah, there's, you know, I think a fear of being, of sort of disappearing into a kind of mass. Into
il y a cette peur de disparaître, de se fondre dans la masse et de devenir le stéréotype, le cliché de l'immigrant, que plus rien ne vous distingue en tant qu'individu. Vous êtes juste un parmi une masse, la masse de tous ceux qui sont venus ici en quête d'une vie nouvelle. Mais en fait, vous êtes un individu avec sa vie propre, différente de celle des autres. Quand Samuel est arrivé en Amérique, il a vu la possibilité de s'inventer de s'inventer la vie qu'il voulait. Bon, en fait, ce n'a pas été le cas. Il ne s'est pas distingué de manière remarquable. Et donc, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qu'il distingue? Et quelle est la version de lui qui va demeurer? Il a conscience de ne pas être l'homme qu'il espérait devenir.
Et donc, ce qu'il reste, ce sont les traces. Minor Majestu, je disais que c'était à la fois un roman sur notre impermanence, au sens où nous bougeons tout le temps, l'identité de vos personnages est très friable, elle est elle-même vulnérable, mais le voyage-retour qu'effectue votre personnage principal est un voyage sur les traces de sa propre mémoire, mais aussi des traces tangibles, un manuscrit, des photographies, des paroles échangées avec Elsa. Ce roman-là, du coup, qui fait plein d'allers-retours temporels. Il y a un passage très beau où votre personnage parle de la mesure du temps. Qu'est-ce que c'est au fond qu'une seconde? Qui a décidé ce que c'était qu'une seconde? Ou quelques minutes pendant lesquelles sa mère le laisse? Et pour qui, dans ce moment-là, il se passe des choses très importantes. Comme si votre roman faisait peu de cas de hiérarchie temporelle, de chronologie exacte, vous vous promenez, quoi, vous permettez à votre personnage principal d'aller d'un point à un autre dans la chronologie de sa vie, quoi.
Yeah, you know, and it was one of the kind of the joys I think in writing this novel was finding.
C'était une des joies que j'ai trouvées en écrivant ce roman. C'est arriver à trouver mon chemin par rapport au temps. On peut entrer dans les souvenirs de quelqu'un et dans ces souvenirs, on va trouver encore d'autres souvenirs qui vont vous guider vers d'autres souvenirs encore. Toutes ces couches qui s'emboîtent presque à l'infini de liens avec le passé et de retour vers le présent et d'aller-retour. C'était une joie pour moi. Et cette forme de roman crée un espace où une multiplicité de souvenirs peuvent être contenus dans une même histoire. C'est un peu comme un voyage dans le temps. Fantastique. Et j'espère pouvoir entraîner le lecteur dans cette expérience, ces allers-retours avec le temps, et pour réunir ensemble tous ces lieux qui font notre vie, pas de manière linéaire, mais comme si ça se produisait simultanément.
Vous parlez de tous ces lieux qui sont réunis dans la prose, dans l'écriture, et des lieux à quoi se rajoutent les photographies envoyées par Anna, la femme du personnage principal, qui rajoute presque des lieux, qui parachute une géographie, puisque elle prend des photographies de l'endroit où elle est et de l'endroit où elle se trouve avec le fils, avec le petit garçon. On va écouter justement à propos des lieux et de la superposition de différentes réalités, une archive du romancier Patrick Modiano.
Il y a certains lieux, oui, où j'éprouvais une sorte de malaise, oui, comme s'il y avait des choses qui s'étaient passées, mais c'était peut-être lié à un truc imaginaire ou à un rêve que j'avais fait sans me... Parce que souvent, on fait des rêves dont on ne se souvient pas, et puis peut-être que j'ai fait un rêve où il y avait ce café, la source, et je me souvenais pas du rêve, et donc j'éprouvais un truc bizarre. C'est quelquefois purement subjectif, mais quand même, il y a quelquefois des endroits où vous sentez qu'il y a... Il y a quelque chose qui flotte, enfin. Oui, ça, c'est des souvenirs personnels. C'était quand j'avais 20 ans ou 21 ans. Et j'ai senti que, à ce moment-là, si je faisais pas quelque chose, où justement, j'avais l'impression que je risquais d'être emporté dans un truc, enfin, qu'il fallait faire quelque chose. C'était lié à ma vie personnelle. Je faisais pas d'études. J'étais livré un peu à moi-même. Et il y a eu un moment qui s'est lié à un endroit très précis où j'ai senti que si je faisais pas comme de remonter à la surface, je risquais d'être complètement... Et donc, forcément, ce genre de moment de sa vie où ça vous laisse un souvenir très précis, le lieu, ou certains lieux où vous avez attendu quelque chose de très important dans votre vie, où le lieu reste évidemment très présent.
La voix de Patrick Modiano au micro de Christophe Onodibio, dans Le Temps des Écrivains sur France Culture, à la fois l'importance du lieu, donc fondamentale dans l'œuvre littéraire de Patrick Modiano, mais aussi peut-être tout ce qui se superpose au lieu, à savoir la rêverie, la fantasmagorie, l'irréel, l'imaginaire. Il me semble que votre personnage Mamouche a un peu ce rapport au réel. ou votre narration peut-être, ou votre écriture à ce rapport au réel, c'est que peuvent se mêler des descriptions de choses qui ont vraiment eu lieu, mais aussi des choses qui sont fantasmées par les personnages au moment où ça a lieu, et tout devient presque une même matière de vie, quoi.
Yeah, I think the kind of like the hard reality of a place is.
Oui, la réalité concrète des lieux n'est peut-être pas aussi concrète qu'on l'imagine.
Ce
qu'on a abordé tout à l'heure, les traces qu'on laisse,
ces traces
qui demeurent, les moments qui restent en suspens autour des lieux, les choses qui sont là mais pas là, présentes et non présentes. Et c'est un peu à l'image de la manière dont le personnage déambule à travers le monde, une existence un peu fantomatique, c'est la manière dont il voit la réalité aussi et dont il habite ces lieux. Parce que la manière dont il établit un rapport avec ces lieux se limite à la réalité qu'il vit à tel moment. De Paris à Chicago, Washington D.C., la banlieue de Washington, tous ces lieux sont essentiels à ce qu'est le personnage et ce qu'il est devenu.
Are somewhat elusive in trying to actually understand.
Mais en même temps, il y a là quelque chose d'insaisissable.
How he's lived inside of them and even how
comment a-t-il vécu dans chacun de ces lieux et comment s'est-il construit dans ces lieux?
Je voudrais prendre un exemple précis. Il est, je crois, donc c'est un adulte. Il revient aux États-Unis. Il apprend la mort de cette figure paternelle, Samuel. Il revisite sa propre mémoire. Et donc, une scène lui revient. Il est plutôt adolescent, si je ne me trompe pas. Sa mère doit le laisser dans une épicerie le temps de s'absenter. Il vit là une scène plutôt traumatique, une sorte à la fois de d'initiation à la masturbation, mais en même temps, c'est une intrusion très forte de la sexualité dans son réel. Et au moment où la scène se termine et où l'homme qui lui a fait subir cela lui dit « tu ne dois jamais oublier », il se figure comme un personnage qui aurait vu la scène, derrière un grillage, personnage qu'il serait en mesure de revenir voir s'il revenait à l'épicerie. Et donc ce personnage-là, Dino Mengistu, c'est comme si vous pouviez, je vais essayer d'être le plus clair possible, par la littérature, comme donner corps à l'expérience ambivalente, traumatique, marquante en tout cas, pour ce jeune homme, et que cette expérience se tenait derrière un grillage, et que l'homme pouvait venir revisiter cette expérience comme s'il venait revisiter une créature. Tout le monde me suit? C'est ça qui se passe, on est d'accord, dans le chapitre, hein. C'est aussi complexe que ça. Hein.
Completely. I think that's a beautiful reading of what happens.
Je crois que c'est une très belle interprétation de ce qui s'est passé. Il subit cette expérience traumatique, en effet, et il n'a nulle part où aller. Il ne peut pas en parler à sa mère, parce qu'elle a assez de soucis comme ça, se dit-il. Et donc, c'est à lui de porter ça. Et voilà pourquoi il va construire ce personnage qui va représenter cette expérience. Et il crée une prison, presque une tombe.
Absolument.
Both embodied,
et ça veut dire que cette expérience, bon, certes, elle est incarnée, mais elle est toujours là aussi.
Elle
ne peut pas être libérée, gérée, intégrée dans son être profond. Donc, pour lui, retourner là-bas, vous savez comment ces expériences compliquées continuent de nous marquer, et pas comme des abstractions, des concepts, mais des choses réelles, véritables.
How we care for them, you know, and there's a kind of care.
Et comment, ça nous soucie, on s'en occupe quand même. Et comment est-ce qu'on les dépasse?
Absolument. Et finalement, une autre manière de lire cette espèce de créature derrière la cage ou en prison, ça pourrait être aussi une version de lui-même. Cette version de lui-même qui a été impactée par cette intrusion traumatique. Et donc, c'est aussi un roman où finalement, vous C'est comme si vous matérialisez, vous fabriquez un monde fictionnel d'Ina Omengestu où on peut se rendre visite à soi-même à ce moment-là de notre vie, à ce moment, ouais. Ou alors rendre visite aux êtres qui comptent pour nous à ce moment-là de leur vie, peut-être même après leur mort. Il y a comme une sorte de dimension hyper matérielle de toutes ces choses qu'on dit souvent comme étant immatérielles.
Ouais. Yeah, I think there are it's almost as if you take a person and you,
c'est presque comme si
memories,
vous prenez quelqu'un et au lieu de dire que cette personne a tel ou tel souvenir, on découpe cette personne, on crée une certaine version et puis après une autre version de cette personne, un autre morceau qui va vivre autre chose. Et le narrateur, oui, il a plusieurs versions de lui-même dans ce roman. Et parfois, il se retrouve coincé, bloqué dans telle ou telle expérience, incapable de les dépasser, mais il faut simplement créer encore plus de versions de soi-même. Et c'est cette multiplicité. C'est cette multiplicité qui empêche le narrateur de se regarder de manière honnête. Il est tellement fragmenté, tellement éclaté entre toutes ces expériences positives ou négatives.
C'est peut-être ce qu'a vu Ghislaine, on a une petite hésitation, auditrice du book club. Elle a lu votre roman d'Ina Omengestu et elle s'est arrêtée à l'image d'un petit garçon qu'on rencontre au tout début du livre et qui a le bras plâtré.
Bonjour le book club, bonjour Denao Mendestu. C'est une très très belle découverte de lire votre nouveau roman. Ce qui me fascine de cette histoire, c'est que tout est en parallèle avec des métaphores permanentes. L'instabilité des personnages, l'instabilité de l'exil, l'instabilité de leur pays d'origine, l'Éthiopie. J'ai forcément une question qui me taraude, ce qui m'est venu au fur et à mesure de la lecture. Ce petit bonhomme qui n'arrive pas à se hisser à cause de ses membres, eh bien c'est un peu comme Samuel qui n'est pas arrivé à s'élever dans ce mirage de la société américaine. La portée du petit garçon, elle est forcément symbolique. Merci beaucoup pour votre réponse.
On entend la voix de Ghislaine qui a lu votre livre, qui s'est arrêtée à ce petit enfant singe tout droit sorti de l'imagination de votre personnage Mamouche, dont elle fait une sorte d'image symbolique de l'incapacité du personnage principal à s'inscrire dans la réussite américaine. Est-ce que Ghislaine voit juste Ina Omengestu?
Yeah, you know, I think there's that ability to kind of like find oneself and
oui,
be,
il y a cette
sort of enveloped in this
tentative,
idea of American, to become,
cette possibilité
to be American,
de se trouver, de devenir pleinement américain.
You know, I think that's,
c'est ça qui devrait arriver. Pourtant, ça n'arrive pas forcément.
A product of, you know, when I look at my sort of different books about this question of the American dream,
beaucoup de livres traitent du rêve américain. Et c'est vrai que personnellement, je suis de plus en plus sceptique quant à la capacité d'être américain. Et c'est ça le rêve américain, c'est de vraiment se sentir appartenir, d'être au cœur de cette société. Et bien, ça devient de plus difficile, de plus en plus difficile. Et depuis les 30 dernières années.
Et ça devient de plus en plus difficile pour des raisons qui font que on dénonce l'idée même, la fiction même d'être américain de tout temps, vous diriez, Ina Omengestu, que ça tient plus, ou ça devient difficile parce que politiquement, parce que ce que représentent aujourd'hui les États-Unis dans le monde rend difficile l'adhésion à cette identité. C'est quoi? C'est le rêve américain dans l'absolu qui chute?
No, I think it's the politics. And
non, je crois que c'est la politique et les politiques appliquées aux États-Unis qui ont modifié cela. Ce à quoi l'on assiste actuellement, c'est une version extrême de ces politiques restrictives.
limiting
Mais depuis 1996, je pense qu'il y a de moins en moins de possibilités pour les étrangers, les immigrés, d'appartenir complètement à ce pays. En même temps, la démographie change dans ce pays. Et le risque de perdre une certaine majorité, eh bien, a poussé certains à s'assurer que personne d'autre ne veut se joindre à cette communauté. Dénoncer, nier et dire publiquement qu'on n'est pas à sa place ici, qu'on n'appartient pas là, à ce pays, c'est un discours valide. Peut-être qu'il n'est pas réel, mais les gens le ressentent comme réel. Et ce, depuis longtemps. Ce sentiment de ne pas être à sa place.
Et,
ou alors, soit on pense y appartenir, mais c'est le pays qui vous renvoie à l'image d'une dissonance et qui vous dit « vous n'êtes pas à votre place ».
Mais peut-être que ce qui vacille plus généralement, plus fondamentalement, Dina Majestou, c'est l'idée d'identité solide, nationale, inébranlable. Peut-être que ce que vous bâtissez dans les fictions, c'est-à-dire des manière d'être au monde et d'appartenir au monde plutôt du côté du morcellement, du doute. C'est peut-être ça la condition contemporaine de l'humain, quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette planète.
Peut-être, oui. Et on peut vivre avec ce doute, je pense. Qu'on croit en cette multiplicité, qu'on pense qu'on n'est pas obligé de se définir selon des paramètres culturels nationalistes. Et peut-être qu'on est plus vivant parce qu'on donne de l'espace à ces versions multiples de sa propre identité. Mais culturellement, il y a une forte pression à se définir soi-même.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme toutes les semaines à cette heure-ci, on parle de la littérature à destination des plus jeunes avec vous, Raphaël Bott. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Le Printemps des Poètes commence cette semaine sa 28e édition. C'est un mois de poésie, et pour les enfants aussi bien sûr. Qu'est-ce qu'exactement la poésie à destination de la jeunesse? Est-ce qu'il y a une écriture singulière? Est-ce que ce sont des mots qui seraient plus simples? Est-ce qu'il y aurait des thèmes enfantins? On fait un petit tour de ces questions avec vous aujourd'hui.
Et première consigne, Marie, eh ben, écrire un poème à six pattes qui grouille de noms d'insectes. Yipul, Cercope, Doryphore et autres magiciennes dentelées. L'invitation est donnée par l'auteur jeunesse et poète Bernard Friot et on peut la lire sur la dernière page d'une revue de poésie pour les enfants. Elle s'appelle Gustave Junior. Elle se télécharge gratuitement sur leur site chaque trimestre. La poésie peut impressionner et j'ai choisi cet exemple dans Gustave Junior car il traduit bien son ton et sa façon de partager. Il se trouve que j'ai échangé il y a peu de temps avec Stéphane Bataillon, qui est journaliste, poète et rédacteur en chef de cette fameuse revue. Et il m'expliquait à quel point la poésie offrait aux enfants un autre rapport à la langue et combien en écouter, en écrire, en lire pouvait permettre des déclics. Et là, bah, pas question d'apprendre par cœur ou de décortiquer. Là, c'est juste le plaisir de la lire. Et Il insistait aussi sur l'importance de la poésie contemporaine. Et dans cette revue, on lit des textes de Thomas Vinot, de Jean d'Amérique, de Ramona Badescu, de Pierre Soletti.
Et alors, poursuivons avec un autre poète contemporain. D'ailleurs, il a écrit déjà pour cette revue. C'est Karl Norak qui vient de publier un nouveau recueil.
C'est un poète belge et il écrit effectivement beaucoup, beaucoup pour la jeunesse. Et son nouveau recueil s'intitule « J'ai un poème à te dire ». L'objet est petit, élégant, coloré, un peu épais, avec un ruban signé, assez chic. On a envie de l'ouvrir. Et pour ma part, je suis une grande admiratrice d'Anne Brouillard et c'est d'abord par l'illustration que je suis rentrée. On retrouve son trait estompé, cette légère impression de brume, cette omniprésence de l'eau, des flaques, la mer, le canal. Et ce talent a créé un mouvement. C'est un cheminement de paysage, de croisement, de demi-tour. On entend les feuilles des arbres bruisser. On aperçoit l'araignée cavaler sur la page. On respire l'odeur de la mer sur l'immense
et
plage.
Et toutes ces sensations que vous décrivez, Raphaël Bott, c'est aussi ça
qui fait poésie dans la peinture.
C'est exactement ça, et je trouve que cet ouvrage, il offre ça. On avance sur les sentiers, au détour d'un tronc d'arbre, on s'arrête pour contempler un point de vue, et on est déjà dans cette gourmandise poétique qui invite à piocher, selon l'humeur, le moment, l'envie. Les mots jouent, les associations surprennent, ils évoquent une promenade sous un parapluie, une goutte d'eau qui est coincée à l'extrémité du robinet, ou encore un bestiaire réjouissant. Dans mon bestiaire, il y a un chat chatoyant, un kangourou gourou, un rat plus ou moins raté, une girafe graphique, une anti-antilope et un gnou écorché. Karl Norak, il aborde aussi dans ses différents poèmes, il parle de l'écriture et du rapport aux mots, justement. Parfois, j'ai un mot dans la main qui bouge. Il me chatouille comme une paille, s'allonge à la façon d'un criquet, prêt à sauter ou bien il se love, en bout de laine, sur les lignes de ma paume. On me demande c'est quoi ce mot ? Je ne sais pas, peu importe. J'aime bien l'idée d'un mot posé, dans une main juste là, mais qui n'appartient à personne. Ce poème, il s'intitule « Un visiteur ». Et ce sont tous ces poèmes, des textes assez courts, qu'on peut bien sûr lire facilement à voix haute.
Et on poursuit avec la forme inévitable de l'anthologie. Quand on parle de poésie, forcément, quelle anthologie voulait évoquer Raphaël ?
Et là, c'est celle qui a été faite par une romancière qui s'appelle Isabelle Panzalopoulos et qui a rassemblé des textes. Leur point commun à tous, c'est justement le point levé. Elle les a réunis sous le thème universel et intemporel de la révolte. Elle fait résonner toutes les époques, toutes les formes, tous les pays. On entre par du théâtre, avec la tirade du Cid, au rage, au désespoir. On y croise des incontournables et puis surtout on en découvre. Et c'est justement cette juxtaposition qui fait sens. Isabelle Panzalopoulos a échafaudé un ordre partant de l'absurdité des guerres et s'achevant par les insurrections poétiques. On y lit un Arthur Rimbaud, Victor Hugo évidemment, mais aussi Mahmoud Darwish, Marguerite Yourcenar ou encore Taslima Nasrin, Jeanne Benhamer, Maya Angelou. Alors cette anthologie, je la trouve très accessible, généreuse, bouillonnante, elle tombe à pic. Et si ce mot d'anthologie pourrait avoir aux oreilles de certains un petit côté formel, scolaire ou savant, eh ben j'ai appris à la faveur de cette chronique qu'à l'origine, le sens premier de ce mot, ça désigne l'action de cueillir des fleurs.
Bah alors, je savais pas, c'est beau. Cueillons donc de la poésie. Lisons la poésie avec et aux enfants avec cette revue trimestrielle et gratuite que vous évoquiez, Gustave Junior. Quand vous dites ça se télécharge, donc on télécharge et puis on imprime quoi ?
Exactement, voilà. C'est des feuilles A4 qui s'impriment très facilement, c'est beaucoup à la destination des enseignants.
Et ce recueil, J'ai un poème à te dire de Karl Norak et Anne Brouillard et enfin cette anthologie pour les plus grands, La Révolte en poésie, publiée chez Gallimard Jeunesse. On mettra toutes les références sur le site de l'émission Le Book Club Lecture Jeunesse et puis on va faire nous aussi une émission consacrée au Printemps des Poètes. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non,
à la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. On va jouer au grand jeu des pages musicales. Alors, Dina Majestou, normalement, il y a de la musique dans le book club. On cherche de la musique dans les livres. On n'en a pas trouvé dans votre livre. Est-ce qu'on se trompe ? Non ?
Non.
On
non,
est d'accord ?
No, yeah, there's not, no, there isn't, yeah.
On est d'accord qu'il n'y a pas de
musique.
Il n'y a pas de musique. Alors, on se quitte avec un extrait qui nous a été envoyé par une auditrice. Une fois, j'ai fait une exposition dans notre bibliothèque locale, mais ça n'a pas été un grand succès, d'un point de vue commercial. Ce n'est peut-être qu'une excuse pour justifier mon échec, mais je crois que là où je vis, la plupart des gens veulent des photos de coucher de soleil sur le château de Dunsavarick, des sommets enneigés des Mournes ou maintenant de la route des Dark Ages. Un arc-en-ciel ou tout autre phénomène extra-visuel de ce genre. Et moi, qu'est-ce que je veux photographier ? Difficile à exprimer en mots. Mais sans doute, l'instant qui se trouve juste sous la surface des choses, ou en aperçu du familier sous un angle différent. Si ça se trouve, je sais même pas. J'y réfléchis, en conduisant et en écoutant Losing My Religion de REM, avec la pensée plutôt rassurante que je n'ai jamais compris les paroles du moindre de leurs titres. Et j'essaye de faire apparaître devant mes yeux la photo que j'aimerais prendre.
devrais transformer cette séquence du book club en karaoké, vu comment toutes les personnes autour de studio et dans la régie ont commencé à bouger la tête. Je remercie Maud qui a joué avec nous au grand jeu des pages musicales. Elle avait donc choisi un extrait de Voyage en territoire inconnu, publié à la table ronde. C'est un texte de David Park. Merci beaucoup, Dina O'Majestu, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour évoquer votre texte « Quelqu'un comme nous » paru aux éditions Albin Michel dans la traduction de Paul Mathieu. Merci beaucoup, Evder, d'avoir assuré l'interprétariat. Au son, c'était Dalia A, à la réalisation Vivien Demeyer, à la préparation Julie Gastal et toute l'équipe du Book Club. Rendez-vous sur le compte Instagram pour partager vos lectures en ce 10 mars. Je lis. C'est tout.